Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de votre fidélité au programme de Studio Tamani. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal présenté par Juliette Koulibaly. Salim Djouara assure la technique. Voici donc les grandes lignes de cette édition. L'espoir d'une réouverture renaît chez les anciens travailleurs de l'huilerie cotonnière du Mali, Ikoma de Koulikoro. Le ministre du Commerce a visité l'usine ce jeudi. Report de la présidentielle de février 2024, l'autorité de gestion des élections apporte des précisions sur la fixation des dates. Les conditions d'études de plus de 40 000 élèves à Bamako et dans la région de Koulikoro vont bientôt changer. L'initiative vient de l'UNICEF et l'ambassade du Japon à travers le projet École pour tous. Les détails de ces titres dans un instant. Vers une réouverture prochaine de l'huilerie cotonnière du Mali. À en croire les autorités de la transition, des actions sont en cours pour la reprise de l'usine située à Koulikoro. Sur place, les anciens travailleurs de l'UKOMA n'ont pas caché leur joie suite à cette nouvelle. Un reportage signé Zoumana Naïté et Draman Maïga.
Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce, se montre confiant. Il balise les étapes à suivre pour la réouverture prochaine de l'UKOMA.
La visite d'aujourd'hui n'est qu'une première étape, mais aussi pour donner corps et vie à l'économie locale de Koulikoro. C'est pourquoi, après cette visite, très rapidement, nous allons engager une étude pour évaluer l'état de l'outil industriel.
Un espoir pour les anciens travailleurs de l'usine, parmi eux, Djedjouma Koulibaly. Il estime que la reprise de l'UKOMA sera un plus pour l'économie de la région, voire pour celle du pays.
Nous en sommes très heureux. C'est une occasion pour nous d'être dans nos droits. Ça permettra aussi à nos enfants et petits frères de travailler. C'est une bonne chose pour la ville et les pays.
Idrissa Traoré, également ancien travailleur de l'UKOMA, avance des idées pour la pérennisation de la société. Il plaide pour le rachat de l'usine par l'État et une gestion plus transparente.
L'UKOMA est un cas particulier. L'usine a été privatisée pour qu'elle avance bien, mais tel n'a pas été le cas. C'est à l'État de reprendre la commande de l'unité. Seul l'État peut faire marcher cette usine.
Rappelons que cette nouvelle intervient après la réouverture d'une autre usine, cette fois-ci à Ségou. Il s'agit de la compagnie malienne de textiles Comatex, qui a recommencé ses activités le 13 juin dernier.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'autorité indépendante de gestion des élections, EIGE, s'est prononcée sur le report des élections présidentielles. Face à la presse hier, le président de l'organe de gestion des élections a apporté son point de vue concernant cette décision du gouvernement. Écoutons Maître Moustapha Cissé, président de l'EIGE, au micro de nos confrères de l'ORTM.
Du point de vue de l'EIGE, le réaménagement du calendrier électoral, y compris le léger report du scrutin présidentiel, s'inscrit parfaitement dans les prérogatives légales des plus hautes autorités du pays en vue du retour de notre pays à un ordre constitutionnel apaisé. L'EIGE rappelle ici qu'au regard de la loi électorale, l'EIGE n'a pas de compétence générale dans la fixation de la date des élections. En ce qui concerne les contraintes techniques, celles relatives à la prise en compte des résultats de la révision annuelle des listes électorales dans le fichier électoral à partir de janvier 2024. Cette contrainte, bien sûr, interpelle directement l'EIGE. L'EIGE retient en définitive que le léger report de l'élection du président de la République doit être compris dans l'esprit d'une démarche commune d'imprimer au scrutin de fin de la transition.
Des combats ont opposé ce jeudi les forces armées maliennes aux groupes armés terroristes à Anéfis, localité située à 60 km de Kidal. Au même moment, des sources locales rapportent que des hommes armés à moto ont incendié trois villages dans la commune de Ségué, cercle de Bankass et région de Badjangara. Le point avec Ali Cissé.
Dans un communiqué publié hier, le chef d'état-major général des armées indique que les FAMA ont fait face à un rideau défensif des terroristes avec des tranchées à environ 10 km de Anéfis, une localité située près de Kidal. Des opérations aéroterrestres ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire des véhicules pick-up. Il faut signaler que la direction de l'information et des relations publiques des armées a indiqué cette semaine avoir neutralisé des centaines de terroristes et détruit d'importants matériels. C'était au cours d'un point de presse. Par ailleurs, à Bankass, des hommes armés ont fait irruption hier dans trois villages. Il s'agit de Kogo, Yolosa et Legere. Des sources locales indiquent qu'ils ont chassé tous les habitants des 10 villages avant de les incendier. Pas de perte en vie humaine, mais les mêmes sources rapportent que les habitants ont trouvé refuge dans leur champ de mille.
Autre actualité de cette édition, le premier ministre nigérien a effectué hier une visite au Mali. Ali Mahamane Lamine Zeyn a eu une séance de travail avec le premier ministre Dr. Choguel Kokala Maïga. Les deux hommes ont échangé sur le renforcement de la coopération entre les deux pays sur le plan de la sécurité, de l'économie et de l'électricité. Ensuite, ils ont eu une audience avec le président de la transition. Leurs discussions ont porté sur la tenue de la grande commission mixte nigério-malienne, la lutte contre le terrorisme au Sahel et la alliance entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger sur la coopération économique. Comme annoncé dans les titres, l'UNICEF et l'ambassade du Japon ont signé ce matin un projet pour la promotion de l'éducation des enfants basé sur le modèle dans les zones vulnérables. Selon les organisateurs, ce projet dénommé École pour tous vise à améliorer la qualité de l'éducation à Bamako et dans la région de Koulikoro. Le coût du projet s'élève à 2,3 milliards de francs CFA. Lale Tangara était sur place pour Studio Tamani.
Le représentant de l'UNICEF, Pierre Ngom, indique que plus de 40 000 enfants vont bénéficier de ce projet dans des centres d'animation pédagogique de Nonsombougou, Dioïla, Bakodjikoroni.
Ce projet est essentiellement pour travailler avec le ministère de l'Éducation pour améliorer la qualité de l'éducation avec comme cible 432 écoles dans le district de Bamako et puis dans la région de Koulikoro.
De leur côté, l'ambassadeur du Japon au Mali, Hideki Inzenu, explique que ce projet d'éducation financé par son pays s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale non remboursable du Japon envers le Mali.
D'une durée de plus de 3 ans, il vise à offrir un accès accru et inclusif aux enfants vulnérables de l'enseignement primaire, surtout les filles, dans un environnement sain et protectif par l'amélioration de la qualité de l'éducation.
Les initiateurs de ce projet soulignent également que les bénéficiaires seront dotés de kits scolaires et d'hygiène menstruelle pour les adolescentes afin de faciliter leur intégration.
L'interdiction de circulation des véhicules de transport public de voyageurs entre 0h et 5h du matin est en vigueur depuis le 7 septembre dernier. Si des compagnies ont pu s'adapter à la décision du gouvernement, certaines affirment avoir du mal à s'y faire. Toutefois, l'initiative reste salutaire pour eux, car elle a permis de diminuer les attaques sur les routes. Écoutons les réactions des chauffeurs à Kadjolo, Yoroso et Koro, compilées par Aïssata Diarra avec le concours de nos correspondants.
Ici à Kadjolo, plus précisément Zegwa, notre société a pris les dispositions à partir de 10h. Tous nos bus qui sortent pour l'extérieur, c'est-à-dire Abidjan, Dakar et autres, sortent pour pouvoir atteindre les frontières avant la tombée du soleil.
Chez nous à Koro, ça nous a posé des difficultés. À l'aller, les bus quittent à 6h et rentrent à Bamako à 18h. Mais le retour est devenu un peu problématique parce qu'un bus sort à 14h et l'autre à 22h. Le trajet qu'on pouvait faire en une journée est devenu 2 à 3 jours.
Ça ne nous a pas causé de problème. Lorsque les chauffeurs sortent la nuit, certains ont sommeil et causent des accidents. Je quitte Koury à 6h et je rentre à Bamako.
6h pile. Kata Bamako.
À présent, le résumé de l'actualité de la semaine avec Ali Mayatara.
L'actualité de la semaine a été marquée par la rentrée scolaire 2023-2024 le lundi 2 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Des responsables scolaires avaient signalé certaines difficultés. Les opérations de la révision de la liste électorale ont également débuté cette semaine sur l'ensemble du territoire. Selon les autorités, elles vont prendre fin jusqu'au 31 décembre prochain. Autre actualité, c'est la commémoration dans la nuit du mardi à mercredi 4 octobre de l'anniversaire du baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui à travers le pays. Des prêches, des lectures de Coran et des prières pour le retour de la paix ont été le temps fort de cet événement à Tombouctou, Sofara et Nioro du Sahel. Nous bouclons cette rétrospective par la découverte d'un cas de chikungunya au Mali le 30 septembre dernier à Bamako. Mais les autorités sanitaires ont annoncé sa guérison.
Sport football, le démarrage du championnat national Ligue 1 initialement programmé pour ce week-end a été décalé d'une semaine. Dans un communiqué, la FEMAFOOT explique que ce report permettra au club de mieux se préparer afin d'aborder la compétition dans les meilleures dispositions. Et c'est la fin de cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Salim Djouara assurait la mise en onde. Juste après le magazine Économie, vous aurez la rediffusion du grand dialogue du 29 septembre dernier dont le thème est La danse traditionnelle, un art du corps et des esprits. C'est une présentation de Mariam Koulibaly. Vous pouvez retrouver ce journal sur l'application Studio Tamani disponible sur Play Store.
Est diagnostiqué. Le ministère de la Santé et du Développement Social recommande d'adopter les mesures de protection pour empêcher la maladie de se propager au Mali.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Elle se caractérise par une fièvre avec des maux de tête, des douleurs aux articulations et peut entraîner des vomissements de sang. Vous avez une sensation de grande fatigue et des boutons sur la peau.
La dengue se transmet par les piqûres de moustiques. Pour se protéger de la dengue, des gestes simples.
Couvrez les fûts et réserves d'eau.
Dormez sous une moustiquaire.
Éliminez les déchets inutiles dans et autour de la maison.
Protégez-vous des piqûres de moustiques en portant des habits longs qui couvrent tout le corps.
Détruisez les gîtes lavaires, eau stagnante, désherbage, vidange, des ordures, etc.
Vous pouvez aussi utiliser les répulsifs, crème, spray, lotion anti-moustique, mais pas chez les petits enfants et pas sur le visage.
Et n'oubliez pas que la moustiquaire est le moyen prioritaire de protection pour les enfants.
Ceci est un message de Studio Tamani
en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Le magazine Économie s'intéresse aujourd'hui à la loi de finances. Quelle est l'importance de cette loi de finances? Quel type de loi de finances au Mali? Élément de réponse dans ce magazine réalisé par Moussa Malé Sissoko.
La loi des finances est une prévision qui détermine les charges de l'État et explique les ressources qui doivent financer ces dépenses. L'économiste Modibo Maoumakalou affirme que la loi des finances est une disposition constitutionnelle qui s'impose à un État.
Les recettes de l'État, les dépenses de l'État et la dette publique, c'est cela qui concerne les finances publiques. La loi de finances, c'est une disposition constitutionnelle. On ordonne que l'État détermine ses charges et ses ressources pour une année donnée. Il y a ce projet de loi de finances qui est basé sur des prévisions. Et quand ce projet de loi de finances adopté d'abord par le Conseil des ministres, ensuite par les parlementaires, ça devient une loi de finances.
Après l'examen du projet de loi, les parlementaires autorisent le gouvernement à engager l'État à travers cette loi de finances. L'économiste estime que cette loi peut être modifiée au cours de l'année en fonction des besoins du moment.
Le 1er janvier, le gouvernement exécute cette loi de finances. Comme c'était des prévisions, les charges peuvent augmenter ou diminuer. Et les dépenses aussi peuvent augmenter ou diminuer. En fonction de la conjoncture, quand il y a des ajustements à faire, on passe encore une loi de finances rectificative pour ajuster ces dépenses et ces recettes supplémentaires qui n'avaient pas été prévues. Et maintenant, quand le budget est exécuté pour l'année donnée, disons 2024, en 2025, on va adopter une loi de finances de règlement. C'est ça qui clôt définitivement le budget.
Selon l'économiste Lamine Keïta, cette loi de règlement fait le bilan de la situation budgétaire du pays. Elle vient après la loi des finances initiale adoptée en prévision et celle rectificative.
La loi de règlement vient pour l'état d'exécution exact de la situation budgétaire. Une fois que ça c'est fait, c'est un moyen en même temps de vérifier le respect de la loi initiale, le respect de la modification apportée et puis tout ceci également, est-ce que, comme ça a été adopté par le Parlement, est-ce que le Parlement a été également bien suivi dans ses recommandations?
Modibo Maoumakalou rappelle que la loi des finances est toujours déficitaire de l'indépendance du Mali à nos jours. L'économiste préconise le financement des routes, des industries et des entreprises qui génèrent des ressources financières pour le pays.
De l'indépendance à nos jours, le Mali a toujours eu une loi des finances déficitaire. Ça veut dire que les ressources sont toujours inférieures aux dépenses et qu'il a fallu l'endettement public pour combler cet écart. Que cette dette est comblée en
généralement par l'emprunt public. Cet emprunt public, il peut être, il y a la dette extérieure, ça c'est auprès des partenaires à l'étranger. Les partenaires bilatéraux, ça veut dire un État, et les partenaires multilatéraux, qui sont des organismes internationaux comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc. Et ensuite, vous avez la dette intérieure, contractée en monnaie locale, sur le marché financier et monétaire de l'UEMOA, qu'on emprunte à court, moyen et long terme.
Le projet de loi portant loi des finances pour l'exercice 2024 a été adopté par le Conseil des ministres le 20 septembre 2023. Pour la première fois au Mali, le budget de l'État franchit la barre des 3 000 milliards de francs CFA. Ce projet est soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil national de transition CNT dans le cadre de sa session d'octobre 2023.